La voix en or, mesdames, messieurs, Luc Lavoie, bonjour.
Salut, où étais-tu, nous?
À Paris.
Ah, à
ben
Paris.
Oui. Ben oui, deux petites semaines avec ma tendre moitié.
Ah, vous avez aimé?
J'ai adoré ça, mais écoute, ça peut
c'était
pas être
c'était
pas
ton plate. Premier voyage, là, là?
Non, c'est la troisième fois que j'y allais.
Ah, bon.
Ça fait que là, écoute, on marchait des 20 km par jour. Je sais que ça paraît pas parce que j'ai compensé avec le fromage puis le vin. Parce que là, je me suis dit, si j'arrive ici...
Des bonnes pâtisseries aussi. Là.
Ben, des femmes, ma blonde est, a la dent sucrée. Ça fait que les pâtisseries, écoute, en veux-tu, en v'là.
Mais est-ce que la température t'agrabe ou pas?
Oui, il faisait à peu près 10-12 degrés. Ah, okay. Il y a plus une journée sur deux semaines. Ça fait qu'on est, c'était fantastique.
Ah, bon, c'était bien.
Puis je me suis dit, si j'arrive trop amaigri, là, Luc me reconnaîtra plus.
Ben, c'est le contraire. Je trouve que t'es joufflu pas mal, mon Paul Raphaël. M'a dit.
Comment?
J'espère que t'as profité de ton passage à Paris pour t'acheter des vêtements qui vont faire en sorte que tu diras plus ce que t'as dit l'autre fois en ondes.
Qu'est-ce que j'ai dit?
T'as dit que t'avais pas de quoi pour t'habiller comme il faut. Je veux pas trop.
Ah,
quoi,
non,
là.
Mais là, j'ai acheté plein de
chemises.
J'étais gêné. Arrête, là.
Hein?
Écoute, là, j'étais en chemise de peu près un mois, là, chez moi, avec mes vêtements, là.
T'es d'une élégance.
J'ai mis tous mes REER dans un magasin de chemises.
J'espère
là.
Que c'est pas la même chemise depuis un mois, là, Paul Raphaël.
Non, j'en ai trois que j'alterne. Une semaine, je mets une, puis là, je fais du lavage aux trois semaines.
Moi, je suis pareil avec la douche. Je prends ma douche une fois par mois, sale ou pas sale.
Bon.
Et, allons-y.
C'est le sujet de la chronique d'aujourd'hui. À quelle fréquence prenez-vous vos douches? Non, Luc, on est à peine à quelques minutes, là, une heure à peu près, de connaître le nouveau conseil des ministres de Justin Trudeau. Je pourrais commencer vers une heure de ce que
moi,
j'ai
c'est
compris.
C'est 1h30.
1h30 peut-être.
1h30, oui.
Ouais, ça a du bon sens. Justin Trudeau...
On s'offre de la spéculation une petite demi-heure encore.
Oui, il y a
on
ça.
On fait du chemin, fait 3-4 jours qu'on spécule.
Non, mais ça, c'est une des questions que je vais te poser. Comment ça se fait qu'il y a autant de fuites que ça? Moi, je pensais que le premier ministre appelait quand même un peu à dernière minute. Mais comment ça se fait que ça coule autant que ça?
Franchement, je me suis posé la même question. Parce que j'ai été dans le cabinet du premier ministre Mulroney quand il y a eu des gros remaniements ministériels. Je vais te dire, il n'y en avait pas de fuite parce que c'était considéré là, comme... En plus, c'était considéré comme ce qu'il y a de plus secret, mais pas simplement parce qu'on veut cacher, c'est parce que le premier ministre, il faut qu'il y ait des options dans les mains.
Ouais, c'est
par
ça.
Exemple, ça se peut qu'il change d'idée 24 heures avant.
Okay. Exact.
Parce qu'il y en a un qui voulait placer un endroit, puis la personne a dit non, je suis pas capable de faire ça, ou n'importe quoi. Là. Il y a toutes sortes de données en main. Alors, comment ils ont fait pour provoquer autant de fuites, vraiment, c'est... Il y a un manque de discipline dans l'organisation quelque part.
Mais Luc, ça se fait dire non à un poste de ministre?
Oui, oui, absolument.
Il y a des gens qui disent « je suis pas compétent pour ça » ou « ça m'intéresse pas ».
Un ou l'autre. Moi, j'ai un grand ami qui est malheureusement décédé il y a un an, Pierre Debanet, qui a été député du comté de Matane de 68 à 84. Et il avait refusé à deux reprises d'être au cabinet. Il est resté dans le caucus.
Ah ouais?
Parce que ce qu'on y offrait, ça ne l'intéressait pas. Il aimait mieux continuer à faire de la politique okay. locale. Chez lui, il y en a, oui. C'est rare, mais il y en a. Mais il n'y a pas juste ça. C'est des fois, dans le jeu de la chaise musicale, puis du régionalisme, puis les genres, puis tout ce que tu veux, des fois, tu te retrouves avec un drôle de portefeuille devant toi. Tu te dis, écoute, ouais... Qu'est-ce que tu vas faire avec ça?
Comme si, mettons, là, on dit n'importe quoi, comme si Stephen Guilbeault se retrouvait au patrimoine, par exemple.
non, là-dessus, je peux en parler parce que je me suis pogné aux cheveux avec Drainville hier en ondes à Montréal.
Ah ouais?
Alors, moi, j'avais prédit, dès le lendemain de l'élection, que Guilbeault ne serait pas nommé ministre de l'Environnement pendant au moins 2 ans.
Ouais.
Pourquoi? Parce que, ça va être le dossier le plus hot. Mm-hmm. À cause de tous les effets que cela a dans l'Ouest canadien, à cause de toute cette histoire de pipeline, puis de gaz naturel liquide, puis tout ça, là, ça va être un portefeuille qui va demander quelqu'un qui a un peu d'expérience. Deuxièmement, parce qu'il est une vedette d'un domaine, le domaine de l'écologie, qui est un peu loin du fonctionnement. Je parle juste du fonctionnement, je parle pas des idées, du fonctionnement d'un appareil fédéral aussi complexe que celui-là.
Absolument.
Et moi, je pense que je lisais des chroniqueurs ce matin là, qui sont partis pour la Loire. C'est comme si on nous avait fait de la fausse représentation parce qu'on nous l'a présenté. Non. Moi, je me souviens quand Lucien Bouchard est revenu de Paris pour être nommé ministre... ça s'appelait pas le patrimoine dans le temps, ça s'appelait secrétariat d'État. Évidemment, Bouchard, lui, ce qu'il voulait, c'était être ministre de la Justice. C'est ça qu'il avait fait toute sa vie, pratiquer le droit. On dit non. Peut-être que oui, bientôt, là, mais non. Tu vas faire tes classes quelque part.
Donc, si ça se concrétise, là, Guilbeault, au patrimoine, parce que, bon, d'accord, des spéculations, mais pas mal tout le monde s'entend à venir jusqu'à date, là. Selon toi, il fait bien d'accepter ce poste-là en se disant, à un moment donné, je vais avoir mon ministère de l'Environnement, ou il aurait dû refuser? Non, il fait bien?
Ah non, il fait absolument bien, parce que le patrimoine Canada, là, le ministère du patrimoine, comme on l'appelle maintenant, c'est une espèce de fourre-tout. C'est aussi une machine à candy. C'est une des plus grosses machines à candy du gouvernement canadien. Quand tu veux donner des petits candy à des petites troupes de théâtre locales puis des petites patentes, tu passes par Patrimoine Canada. C'est un ministère aussi qui rayonne dans le domaine culturel énormément. Je veux dire, en fait, c'est une de ses principales tâches. J'espère qu'il aime la royauté, parce que tout le protocole monarchique et tout ce qui retourne...
Ah bon?
Oui, c'est au patrimoine, ça. Alors, c'est une très bonne place, en fait, pour faire ses classes. Parce que t'es pas dans une affaire là, qu'il y a des dizaines de milliards qui courent dans toutes les directions, tout ça. T'es dans une affaire qu'il faut que t'administres, puis que tu représentes bien, puis que tu te sers de ta tête un peu.
T'apprends un peu le protocole.
Oui.
L'aide aux médias, Luc, ça revient au patrimoine, ça?
Ça doit venir du patrimoine. Oui, ça vient du patrimoine, effectivement.
On dit que Justin Trudeau va mettre de l'avant beaucoup sa députation québécoise là pour essayer de contrer un peu l'influence du Bloc québécois. Il y a une autre de ces rumeurs-là qui est assez persistante. C'est François-Philippe Champagne qui passerait des infrastructures aux affaires étrangères à la place de Chrystia Freeland, qui a fait un travail remarquable
Attention, là. Disons que 75% de la tâche de ministre des Affaires étrangères ou de la politique étrangère du Canada, 75% de la politique étrangère du Canada, c'est la relation avec Washington. Donc, Chrystia Freeland, pour le 75% de son temps qui a été consacré à ça, je pense qu'on peut dire qu'elle a fait du bon travail parce qu'on a réussi à sauver l'accord de libre-échange. Mais là, tu te tournes de bord.
L'autre 25%.
Ouais. On avait-tu envie qu'elle envoie un tweet le 1er juillet pour dire que les Saoudiens étaient décrottés, puis ainsi de suite?
C'est vrai.
Ils le sont crottés, si tu veux mon opinion. Mais le but d'un ministre des Affaires étrangères, c'est pas de faire part de ses états d'âme.
Non, non.
C'est de voir à l'intérêt du Canada. Les Saoudiens, ils ont sorti je sais pas combien de milliers de leurs étudiants de nos universités, à patati, à patata. Et puis, je pourrais additionner les gaffes monumentales qui ont été faites dans le domaine des affaires étrangères. Alors, elle a fait un bon travail dans la principale composante, mais dans le reste, on repassera.
OK, je partage cet avis-là. Est-ce que, d'après toi, est-ce qu'il y a un défi particulier à former un cabinet dans un contexte minoritaire pour Justin Trudeau?
Je dirais que habituellement la réponse c'est oui, mais cette fois-ci non, et je m'explique. Sa minorité vraiment, il peut quasiment gouverner pendant 4 ans.
C'est une minorité forte.
C'est une minorité très très forte, et aussi une minorité qui donne 3 options. Quand je veux adopter quelque chose qui est pro-environnement, puis ma gang de je sais pas quelle gang, ils sont pas d'accord, le Bloc va voter avec moi. Quand je vais adopter quelque chose qui est bon pour l'Ouest puis que les autres veulent pas, bon, les conservateurs vont voter avec lui. En d'autres mots, s'il est le moindrement intelligent et qu'il sert de ses conseillers stratégiques pour bien, bien doser ça, il est capable de voir un agenda législatif et politique où il va savoir en partant, ah, je vais avoir un tel qui va m'appuyer, ah, je vais avoir un autre qui va m'appuyer. Donc, je reviens à ta question. Normalement, je dirais que oui, c'est beaucoup plus complexe parce que tu peux pas laisser d'espace vide et tu veux couvrir tout le terrain que tu as besoin de couvrir. Mais cette fois-ci, je suis pas très inquiet. Là. C'est pas un gouvernement qui va tomber dans 2 ans, à moins qu'ils choisissent de tomber. Ça, c'est d'autres choses. Quand les sondages te poussent vers le haut, ce qui pourrait arriver, on sait jamais. Puis là, d'abord, il est plus lié par la loi de l'élection à date fixe. Quand tu es en minorité, ça s'applique pas. Alors, il est tout à fait capable de regarder les sondages puis de dire, oh boy, les conservateurs ont pris une débarque, le Bloc s'élève pas plus que ça, c'est en train, en fait, de reculer. Et puis, voilà.
On y va.
Attends une minute, là. C'est parce qu'au moment où je te parle, je suis sûr que ça va t'intéresser au plus haut point. Le prince Andrew de la couronne britannique vient d'annoncer qu'il se retire de toute activité publique au nom de la monarchie britannique. Bon!
Qu'est-ce qui s'est passé, Luc, dans cette affaire-là? Parce que moi, je t'avoue que... Je reviens de 2 semaines de vacances, là, ça allait bien, je suis revenu, tout a déboulé en même temps. C'est quoi cette espèce de télésérie-là du
prince? De Epstein?
Ben, de Epstein, j'ai suivi un peu.
Ben, c'est tout Epstein, c'est relié à Epstein, dans ce cas-là. Ben, Andrew est un imbécile, là. Ça, c'est un idiot, mais on le sait. Il est certifié depuis longtemps, là. Mais là, okay, présentement, là, ce qui fait que la couronne britannique est drôlement dans le caca, si tu me permets, c'est que là, lui-là, si c'est vrai que ce que la fille ou deux, trois, quatre femmes jusqu'à maintenant affirment qu'il y a eu des relations sexuelles avec ces femmes-là quand elles n'avaient pas 18 ans, ben là, il est coupable, ou en tout cas, il peut être accusé de pédophilie. Et peut-être que cette espèce d'idiot de service qui est le prince Andrew s'est dit, il y a un concept de droit rattaché à la monarchie britannique qui dit « The king ou the queen can do no wrong ». En d'autres mots, le roi, la reine ne peuvent pas enfreindre la loi. La loi s'exerce en leur nom, ils ne peuvent pas l'enfreindre. Mais là, ils ont mis les constitutionnalistes là-dessus, ils ont analysé ça, puis lui, il est septième dans le rang d'accession au trône. Il n'est pas couvert par ce type d'immunité.
Non, c'est ça.
Alors, ça pourrait mettre la famille britannique dans de très, très beaux draps.
Écoute, on a déjà vu des scandales qui étaient pas mal moins importants que ça, mais prendre des ampleurs de fou. C'était pas le prince Harry qui s'était déguisé en je sais plus quoi.
En Asie.
Ou qui faisait la fête.
Il s'était montré les fesses, il avait fait des moons. C'est
ça. Il y avait eu de l'air d'un innocent, mais on s'entend que là, le jour où le prince Andrew est accusé de quelque chose d'aussi sérieux comme des relations sexuelles avec des mineurs, de la pédophilie, là, on est
mais
d'ailleurs...
Je te cacherai pas, Paul Raphaël, que moi, j'aimerais tellement connaître toute la vraie histoire derrière Epstein.
Ben, écoute...
C'est louche, hein, les gardiens de prison qui sont endormis, appréhendés, les accusations...
Mais pas juste ça, Jean-François, quand tu regardes, là, écoute... On s'éloigne de notre sujet premier qui était le Conseil des ministres, mais non, ça vient d'arriver en même temps qu'on parle.
De toute façon, on voulait te parler de politique américaine. Là, on est en lien avec tout.
Ouais! Tant qu'à parler de folie, tout ce qui est fou, on va en parler en même temps.
Mais l'affaire Epstein, Luc, c'est pire qu'une espèce
de film. Écoute, d'abord, sa complice, Ghislaine Maxwell, c'est la fille de feu Robert Maxwell, qui a déjà détenu une papeterie ici au Québec, qui était un magnat des médias, de la presse. Robert Maxwell est mort dans des circonstances pour le moins étranges. Et quand il est mort noyé alors qu'il se promenait dans son yacht en Méditerranée. Tout à coup, il est tombé en bas. Quelle étrange chose. Et lui, Robert Maxwell, qui était un réfugié, je crois, juif, je crois, d'Ukraine, et qui a changé deux, trois fois de nom dans sa vie, qui est devenu député travailliste. Je sais que je complique l'affaire un peu, mais pour revenir au cœur de l'affaire, il est mort. Et deux jours après... Ses funérailles avaient lieu dans la partie spéciale du mât des Oliviers à Jérusalem, réservée à ceux qui ont combattu pour la patrie. Alors, soudainement, tout le monde a réalisé d'un coup l'histoire que ce gars-là te racontait était fausse. C'était un agent du Mossad israélien depuis le début. Puis sa fortune colossale, qu'on se demandait comment il l'avait construite, est... Alors, sa fille, Ghislaine Maxwell, okay, et c'est elle qui se retrouve avec Epstein. Epstein, il vient de nulle part. Okay? Ce gars-là, il vient de nulle part. On lui connaît pas de grandes transactions. On dit qu'il a été conseiller financier. On dit qu'il a été dans les produits dérivés. On dit ci, on dit ça. Mais il y a personne qui est capable de nous dire comment le gars a fait pour avoir une des maisons les plus chères de New York, avoir une île à lui tout seul, avoir deux jets, puis fréquenter les plus grands de ce monde sans arrêt et de tous les compromettre avec son espèce de réseau de jeunes filles.
Ouais.
J'aimerais le savoir. Je suis pas en train de dire que c'était un agent du Mossad, mais mon Dieu Seigneur, si on regarde l'histoire d'un des grands héros de l'État d'Israël, c'était un nommé Eli Cohen. C'était un espion israélien qui avait été infiltré jusqu'au plus haut niveau de l'appareil d'État syrien, alors que les deux pays étaient en guerre, et qui avait un peu les mêmes méthodes que Epstein. Il était installé à Damas. Il y a même une magnifique série qui est sur Netflix, si jamais vous voulez la voir. Je pense que ça s'appelle The Spy, et en français peut-être L'Espion. Qu'est-ce qu'il faisait pour infiltrer les milieux décisionnels de la Syrie? Il trouvait des petites filles à tous les gars qui étaient là-bas, puis c'était une espèce de mondain comme Epstein. Et puis là, j'espère qu'il y a des journalistes d'enquête présentement qui sont à l'œuvre pour nous déterrer tout ce qui est autour de ça. D'abord, je crois pas qu'il s'est suicidé. Je pense qu'il a été assassiné parce qu'il y avait trop d'intérêt en jeu. Mais ça se peut que ce soit ses maîtres qui ont décidé de l'assassiner. Comme Maxwell, à qui Israël rendait hommage deux jours après, c'est probablement le Mossad qui l'a éliminé parce qu'il était devenu dangereux. Néanmoins, dans leur façon de concevoir le monde, se voyant comme un État en guerre et assiégé à 100 % du temps, Israël s'est dit, là, il devient dangereux, on l'élimine, mais ça reste quelqu'un à qui on rend hommage. Alors voilà l'histoire de Epstein puis du prince Andrew. Tout ça, moi, ça me fascine. Je pense qu'éventuellement, on en saura plus, j'espère.
Il y a certainement bien des affaires fascinantes là-dedans. Merci, Luc.
Eh bien, ça me fait un plaisir extraordinaire de te revoir revenu de Paris avec,
ben, écoute!
Avec une douzaine de livres de plus.
Non, une petite claque d'en face en finissant. Merci, Luc. Luc Lavoie. La voix en or. Bye-bye.